Casa Miraná.
Le journal avec Joséphine Jones Mundiman.
Nous sommes samedi 27 novembre 2021. Tout le plaisir est pour moi d'être avec vous dans cette édition. Vous suivez la radio Inzambagateka Kawe. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec les principaux titres. Toujours pas de nouvelles des 5 personnes enlevées il y a plus d'un mois dans la zone Minago de la commune Lumonge. C'est le désespoir dans la famille des victimes après la libération ce vendredi de 4 personnes qui étaient dans les mains de la police pour des raisons d'enquête. C'est une violation de la convention de non-refoulement des réfugiés dont le gouvernement tanzanien se rend coupable. C'est ce que dénonce l'association CARBDH Vicar qui lutte pour les droits des réfugiés après le retour forcé au Burundi de 12 demandeurs d'asile burundais ce vendredi. Nous sommes samedi, vous suivrez le magazine En Synergie au cœur de la société, le surdosage d'engrais chimiques, FOMI et le sujet du jour. Vous l'entendrez dans ce journal, les agriculteurs burundais subissent souvent les conséquences du mauvais usage de ce produit. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Toujours pas de traces de 5 personnes, dont 4 d'une même famille enlevées le 12 octobre dernier à Minago de la province Lumonge. L'inquiétude grandit chez leurs proches depuis la libération de 5 individus arrêtés dans le cadre des enquêtes sur ce dossier. Ils redoutent le pire et réclament des lumières sur ce dossier. Beni Akserakana nous en dit plus.
Parmi les 5 habitants de la colline Mouhoudzou qui avaient été arrêtés, 4 ont recouvré leur liberté ce vendredi selon des sources sur place. L'espoir de retrouver vivant ces personnes s'effrite selon des proches qui s'attendaient à ce que la lumière soit faite sur ces enlèvements. Les informations recueillies auprès des habitants de Mouhoudzou révèlent que l'un des hommes kidnappés le 12 octobre a été tué quelques heures après. Il s'agit de Niyomuku Ndi, vendeur de charbon, enlevé alors qu'il rentrait du travail. Les mêmes sources précisent qu'il a été kidnappé par le chef du secteur, Kalonge, et 3 autres jeunes du parti CNDD-FDD. Ce sont ces mêmes personnes qui ont été relâchées ce vendredi. Nous n'avons pas encore pu les joindre par téléphone pour qu'ils donnent leur version des faits. Les 4 autres personnes d'une même famille avaient été enlevées le même jour par des hommes en tenue militaire à leur domicile, puis détenues au bataillon d'intervention lacustre à Kabedzi avant d'être conduites dans un lieu inconnu selon des sources militaires. Depuis, plus de traces de ces personnes malgré des alertes lancées par des proches et des administratifs à la base à Minago. Asmani, un jeune du CNDD-FDD, accusé d'avoir joué le rôle d'éclaireur lors de leur enlèvement, a recouvré la liberté après quelques jours aux mains du service de renseignement. Les proches continuent à réclamer des informations sur le sort de ces personnes, mais ni la police ni l'armée n'ont réagi à leurs sollicitations.
538 candidats, dont 38 filles, ont passé ce samedi un test donnant accès à l'Institut des cadres militaires ISCAM. Ceux qui ont passé l'épreuve sont les jeunes âgés de 18 à 25 ans. Ceux qui sont retenus subiront ensuite des tests d'aptitude physique et médicaux avant de commencer la formation militaire proprement dite, comme le dit ici Floribert Biyereke, il est porte-parole de l'armée burundaise.
D'entrée de jeu, il faut souligner ceci que le métier des armes est un métier vocationnel. On y entre parce qu'on se juge digne et capable de pouvoir exercer le métier des armes. Donc, nous recevons les gens qui veulent et qui peuvent. Cela étant dit, lorsque nous avons lancé des communiqués, on a spécifié qu'il s'agissait de tous les Burundais. C'est-à-dire que les candidats qui sont venus ont été reçus sans distinction. Donc, il appartient à tout un chacun de faire l'examen de conscience pour le métier des armes. Il n'y a pas d'imposition, c'est un choix qu'il faut mûrir en tenant compte de ses capacités, en tenant compte de l'amour de la patrie. Le test va porter sur 3 matières, à savoir les mathématiques, le français et l'anglais. Le 7, quand on aura terminé ce test intellectuel, on va procéder à l'affichage des résultats pour que ceux qui ont à réclamer puissent le faire dans les délais. Et le 7, le même jour, on va procéder à la passation du test physique. Quand on aura achevé ce parcours, le 11, on va afficher cette fois-ci la liste des candidats qui auront été retenu la liste définitive. Mais la liste qui va montrer les gens qui ont été retenus à proprement parler sera affichée le 16. Quand on aura achevé ce parcours, on va procéder au ramassage des candidats à partir de leur lieu, c'est-à-dire à partir de leur province de provenance, et ils seront acheminés à l'ISCAM où ils auront cette fois-là à passer et notre test médical. Et ce test médical va déterminer en fait le nombre de gens qui seront retenus pour commencer le processus d'apprentissage, le processus de familiarisation avec l'armée.
Vous saurez que les 538 candidats qui ont passé ce test sont de différentes composantes ethniques, dont un seul est d'ethnie Batwa. Grogne des habitants de la province de l'Outana, ils dénoncent des cotisations forcées qui sont en train d'être collectées par le parti CNDD-FDD. Les chargés de la mobilisation justifient que c'est l'argent pour l'achat des bancs pupitres des écoles qui n'en ont pas. Plus de détails avec Alice Akimane.
Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, collecte des contributions forcées dans les secteurs de la vie du pays, dans la province de l'Outana. Ces contributions seraient allouées à l'achat des bancs pupitres dans différentes écoles. Selon les fonctionnaires de différents secteurs et les commerçants, le parti CNDD-FDD impose des contributions forcées. Ces contributions sont imposées aux fonctionnaires tant du public que du privé. Les associations œuvrant dans différents domaines et les commerçants de petite et grande taille.
Ils nous disent que ce sont les contributions pour l'achat des bancs pupitres. Les contributions sont payées à la fois par les enseignants et les parents des élèves. Nous sous-entendons par là une certaine forme de coercition. Quand ils disent qu'ils vont mentionner les noms de ceux qui donnent la contribution, cela signifie que celui qui ne donne pas est considéré comme un marginal. Nous attendons pour voir le sort qui sera réservé à ceux qui n'ont pas contribué.
La collecte de ces contributions a commencé avec le début du mois de novembre. Selon une source proche du parti CNDD-FDD, les chefs de service, qui sont pour la plupart militants du CNDD-FDD, des commerçants militants du même parti au pouvoir, ont été désignés pour collecter cet argent dans toutes les communes de la province de l'Outana. Les contributions ont été décidées suivant les services. Pour le personnel du secteur de l'enseignement, un enseignant de l'école fondamentale contribue à 5 000 francs burundais. Celui du niveau universitaire donne 10 000 francs burundais. Un directeur de l'école fondamentale donne quant à lui 15 000 francs et celui du lycée communal 25 000 francs et ainsi de suite dans d'autres secteurs de la vie à Outana. Ils accusent Sylvain Zikololiho, secrétaire provincial du parti CNDD-FDD à Outana, d'avoir créé un moyen de rançonner la population en se cachant derrière le manque de bancs pupitres dans les écoles. Ils disent craindre aussi que ces contributions ne sont pas utilisées pour l'achat de ces bancs pupitres, vu que ceux qui contribuent ne reçoivent pas de reçu sanctionnant leur paiement pour une probable vérification. La rédaction de la radio Inzambagatekakawe, nous avons essayé de contacter par téléphone Sylvain Sikololiho, secrétaire provincial du parti CNDD-FDD de la province de Routana, pour qu'il puisse éclairer l'opinion sur ses contributions, mais sans succès.
Inzamba. Le gouvernement tanzanien viole les conventions qu'il a signées et ratifiées concernant le non-refoulement des demandeurs d'asile, explique Léopold Charangabo, vice-président de la coalition des défenseurs des droits humains des personnes vivant dans des camps de réfugiés, CBDH Vicar. C'est au moment où 12 familles de Burundais ont été arrêtées par la police tanzanienne, puis refoulées dans leur pays d'origine. Léopold Charangabo lance un cri d'alarme pour attirer l'attention sur les risques qu'encourent ces réfugiés burundais. On l'écoute.
La CBDH Vicar déplore le refoulement perpétuel des réfugiés burundais demandés d'asile dans son pays et aussi le traitement inhumé des réfugiés burundais par les autorités tanzaniennes. Récemment, la Tanzanie a refoulé 12 familles qui demandaient l'asile dans son pays. Au lieu d'accueillir ces demandes d'asile, la police les a incarcérés va les refouler. La Convention des Nations Unies du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole du 31 janvier 1967, et aussi les convention d'Oroïwa régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique constitue un cinéma fondamental relatif au statut de réfugié. Mais le gouvernement tanzanien a souvent violé certains des articles qui forment ces conventions, et notamment l'article 3 de la convention de Genève par aussi la discrimination, et l'article 33 de cette même convention qui parle aussi à l'enfermement d'un réfugié sur le territoire de son origine. Et aussi, la convention d'Oroïwa à son article 2 qui stipule que donc, les pays membres d'Oroïwa s'engagent pour bien traiter les réfugiés. C'est pour cette raison alors que nous demandons au gouvernement tanzanien le respect des conventions signées et ratifiées. Et nous exhortons aussi à la communauté internationale de suivre de près ce qui se passe dans le cadre de réfugiés en Tanzanie et aussi suivre de près la situation sécuritaire des réfugiés qui sont dans ces camps.
1310 hectares de cultures variées ont été littéralement ravagés par des pluies torrentielles qui se sont abattues sur 8 collines de la commune Kilemba de la province de Ngozi ce jeudi dans l'après-midi. Pour le moment, la population sinistrée par ces intempéries se dit désespérée. Elle demande une assistance. Dans l'autre temps, l'administrateur communal invite les habitants des collines n'ayant pas été touchés par ce drame à secourir leurs voisins en attendant des aides éventuelles. Dans la commune Marangara de la même province de Ngozi, 1450 ménages sont dans la même situation à cause de ces fortes pluies. L'administrateur de la commune Muhanga en province de Kayanda est accusé de viol par une fille qui travaille comme domestique chez lui au quartier Mukoro dans la matinée de ce vendredi. D'après les informations sur place, l'administrateur Lambert Nduwimana aurait commis cet acte au moment où sa femme était au service. Le cas de ce vendredi faisait la deuxième fois selon les mêmes sources. Nous avons joint par téléphone l'administrateur de la commune de Muhanga à ce sujet, mais il s'est gardé de tout commentaire. Les agriculteurs font le surdosage d'engrais fomis dans leur culture depuis quelques années au Burundi, selon les experts. Nous allons parler des conséquences de ce dosage excessif d'engrais dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Émile Nivasomba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Ijuya Onyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Depuis le début de l'utilisation des fertilisants organominéraux de l'usine FOMI en 2019, les experts ont toujours dit que les études n'avaient pas encore pris fin pour l'utilisation adéquate de ces engrais. Très récemment, certains experts ont indiqué qu'ils observent des surdosages dans l'utilisation de ces engrais sur le territoire national. Quelles sont les conséquences de ce surdosage? Voilà sur quoi nous allons nous focaliser dans le mini-magazine au cœur de la société du 27 novembre 2021. À la présentation, c'est Émile Nivasumba. Bienvenue. Certains experts ont récemment finalisé les études sur l'utilisation des engrais de marque FOMI sur certaines cultures comme la pomme de terre, le haricot et le riz. Ces études montrent que le gouvernement a mal orienté les agriculteurs en leur indiquant des doses excessives de ces engrais fabriqués localement. Parfait, Mudasigana de la radio Inzamba nous parle du contenu de ces études.
Cette étude a été menée en vue d'étudier les performances agronomiques de l'engrais agrominéral FOMI pour la culture du riz et dans les conditions normales. Les prescriptions du rapport des experts montrent que 45 kg d'engrais appelés Imbura sont utilisés pour un hectare, 300 kg d'engrais appelés Totaza sur la même superficie. Depuis 2019, les agriculteurs emploient 100 kg d'engrais Imbura et 200 kg d'engrais Totaza par hectare. Cette dose, recommandée par le ministère de l'Agriculture, s'est révélée agronomiquement et économiquement non rentable sur tous les sites, selon ses experts. Pour la culture de la pomme de terre, pour avoir une bonne récolte, les experts montrent que la dose qu'il faut est de 45 kg d'engrais Imbura par hectare et 200 kg d'engrais appelé Bagara sur la même superficie. Pour le moment, les agriculteurs utilisent 200 kg d'engrais Imbura et 150 kg d'engrais Bagara par hectare. les résultats obtenus pour la culture de haricots, il apparaît que l'engrais Fomi Imbura est tout aussi efficace à doses variantes entre 100 et 150 kg par hectare.
Au micro de nos confrères de la télévision Renaissance, ingénieur agronome Eric Kabgati indique que le surdosage d'engrais a des effets néfastes sur le sol.
Si on applique beaucoup d'engrais chimiques dans le champ, il y a perte de rendement agricole qui peut aussi entraîner ce qu'on appelle le tunnel élevé en acide sulfurique et en acide chlorhydrique. Ces deux acides entraînent la destruction des bactéries fixatrices d'azote. Et ces bactéries jouent un grand rôle dans le sol. Ce sont ces bactéries qui jouent le rôle de décomposer les débris végétaux pour former l'humus dans le sol, qui fait même des trous. Et ces trous dans le sol peuvent aider le sol à bien aérer et de l'onde ruissellement pour s'infiltrer dans la nappe phréatique. Et ces bactéries peuvent être ne pas exister dans ce sol à cause de ce surdosage des engrais chimiques. Et cela entraîne l'appauvrissement du sol au niveau de la destruction de l'environnement. Ces éléments qui sont annexes, donc qui ne sont pas assimilés par la plante, ils sont emportés par l'eau de pluie.
Le surdosage d'engrais a également des conséquences néfastes sur la vie de la population.
Et ces éléments, quand ils arrivent sur les zones de ruissellement, ou même les lacs, ou même les rivières, ils forment ce qu'on appelle l'eutrophisation. Et ce phénomène d'eutrophisation a des effets néfastes sur la qualité de l'eau, d'où la naissance des nitrates. Et ces nitrates-là sont très mauvais sur la santé humaine quand ils sont en excès, d'où l'apparition des maladies, donc les cancers dans le corps humain. Et même ces nitrates peuvent détruire les molécules qui peuvent fixer l'oxygène, surtout pour les femmes enceintes et sur les nourrissons de moins de 3 mois. Il y a beaucoup d'avortements causés par cet excès de nitrates dans le corps. Les conséquences sera très dramatique et sera difficile même à gérer, à contrôler. Comme les nitrates et les phosphores occupent l'eau potable, peuvent causer d'énormes défis majeurs sur l'économie nationale, car le traitement de ces eaux polluées demande beaucoup d'argent. Dans ce cas, le tarif d'eau potable devient plus élevé.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous étiez avec Émile Niwasumba. Au revoir.
C'était l'émission au cœur de la société.
À présent, suivez la revue de la presse avec Georges Nimenya.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bienvenue à vous toutes et à tous à cette revue de presse que nous commençons par SOS Média qui nous parle d'un prisonnier retrouvé mort non loin de la prison centrale de Murembwe en province de Lubangi. C'était ce mercredi 24 novembre 2021 que le corps de Saïd Murengira Ntwari a été retrouvé à l'embouchure de la rivière Murembwe et du lac Tanganyika. Alors qu'il était détenu à la prison centrale de Murembwe, il avait été porté disparu depuis le 16 de ce mois de novembre. Les circonstances de sa disparition et de sa mort n'ont pas été révélées. Le même journal écrit sur Devanyamurenge qui accuse les services d'immigration burundaise d'exclusion. Ils disent que ces services refusent l'entrée sur le sol burundais sans raison. Selon SOS Média, les témoignages révèlent que tout a commencé le 24 octobre 2021 quand un certain Amon Mukiza, la soixantaine, s'est vu refuser d'entrer au Burundi alors qu'il s'y rendait pour se faire soigner. Les raisons du refus ne lui ont pas été signifiées. Amon Mukiza n'est pas le seul à être refusé. Paul Mahoro, un autre Munyamurenge, a rencontré la même difficulté alors qu'il allait se faire soigner dans un hôpital de la capitale économique du Burundi depuis 2 semaines. Il n'a pas eu l'autorisation et les policiers lui ont été clairs selon le journal car ils lui ont dit que les Banyamurenge ne sont pas autorisés à entrer au Burundi. Des commerçants transfrontaliers, des réfugiés qui fuient l'insécurité, qui se remarquent aussi de Kivu, se voient refuser le droit d'entrer au Burundi pour la simple raison qu'ils sont des Banyamurenge. Continuons avec le journal Iwachu pour parler politique. Dans une interview exclusive avec le professeur Jieni Mubona, politologue, ce politologue décrypte les enjeux du premier forum national sur le développement, qui a vu la participation de nombreux experts. Selon le journal, ça a été l'occasion de faire un tour d'horizon de l'actualité politique du Burundi. Répondant à la question du journal, celle de savoir le message qui était derrière ce forum, Jieni Mubona a fait savoir que le forum a permis le débat des intellectuels et politiques, tous issus du système au pouvoir. Les panélistes, les invités, étaient de ce que Julien a appelé intellectuels organiques, c'est-à-dire des intellectuels organiquement liés au pouvoir. Tout ce qu'ils ont dit était à sens unique. Ce politologue trouve que les thématiques pertinentes n'ont pas été évoquées. Il compare ce forum à celui du parti Iprona en 1992 qui a abouti à la naissance des problèmes internes au sein de cette formation politique. Donc, Julien Mubona craint que le président Evariste Ndayishimiye n'ait ouvert une boîte de Pandore. Le chemin de fer est le lac pour pallier au problème de coûts de transport. Titre hebdomadaire Burundi Echo. Le manque d'infrastructures de transport coûte cher à l'économie du Burundi. Tous les 5 ans, le pays perd environ 300 millions de dollars américains en termes de coûts en carburant additif. Selon le secrétaire exécutif du corridor central, Dieudonné Dukundane, on a besoin des services aujourd'hui et pas demain. On fait face à un défi de transport et ce déficit coûte cher. Le problème de transport est aussi lié au manque de maintenance des réseaux routiers. Selon Dieudonné Dukundane, sur un réseau national de 1933 km, seulement 791 km sont en bon état, soit environ 40%. Les routes qui nécessitent une intervention urgente s'étalent sur un trajet de 1242 km, et cela avec un budget estimé à 1,2 milliard de dollars américains pour la réhabilitation. Voilà, c'est par cette remarque que nous terminons cette revue de presse. À la présentation, vous étiez avec Georges Nimenia et je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Merci Georges Nimenia pour la revue de presse. C'est ici que prend fin cette édition. Bien merci pour votre aimable écoute. Josephine Johnson-Mundimana, j'étais au micro. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Au revoir et à la prochaine.